Vous écoutez, on lit pour vous.
Peut-on savoir où s'en va l'Acadie? Un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 11 août 2023 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Les questions larges et philosophiques, j'en pose trop souvent. Elles intriguent certains, mais elles agacent sûrement d'autres, car elles sont coûteuses en matière de temps. Mais c'est plus fort que moi. L'introspection gruge mon temps et mon énergie depuis que je suis tout petit, et elle me permet d'explorer en profondeur divers sujets, notamment l'identité. Au sein de l'équipe du Courrier, on se demande parfois où s'en va l'Acadie. Dans une mer d'anglais, il peut être compliqué de trouver sa place et de s'affirmer en tant que non-anglophone. Je pense souvent à ce qu'on pourrait accomplir sans l'assimilation, un phénomène difficile à éviter dans notre contexte. C'est trop tentant, face aux défis actuels, de ne pas s'imaginer différents scénarios quant au futur de l'Acadie et de la francophonie canadienne. Mais ce qui me fascine le plus de l'Acadie, c'est la langue acadienne, qui n'existe nulle part ailleurs. Si un jour le français dans ma région natale, le nord de l'Ontario, disparaît pour de bon, ce serait triste. Mais on pourrait tout simplement se rendre au Québec pour la retrouver. Cependant, la langue et la culture acadienne, elle est ici, seulement ici. Et je me demande parfois ce que la nouvelle génération pense de l'Acadie d'aujourd'hui et de demain. Si tu dis que tu l'es, ben tu l'es, m'a répondu Sylvie Bouliane, auteure, compositrice, interprète de la baie Sainte-Marie, lorsque je lui ai demandé quelle était sa définition d'une Acadienne ou d'un Acadien. Selon elle, l'acadianité vient du cœur. C'est un peu pareil pour Gabrielle Sanson d'Île Madame, qui inclut plein de catégories pour définir les membres, allant des personnes avec des ancêtres acadiens aux gens qui œuvrent envers l'épanouissement de la nation. Pour certains, comme Valérie Kendall, directrice générale de Radio CKJM, la réponse est courte et simple, un Acadien, c'est quelqu'un de descendance acadienne. Pour d'autres, comme le comédien Robert D'Entremont, Acadien est difficile à définir, car il ne s'agit pas d'un seul accent. Ce n'est pas non plus un seul endroit. Si se définir est un processus laborieux, est-ce qu'il y a au moins un événement déclencheur pour allumer le flambeau de sa fierté identitaire? Un « aha moment ». Ce fut le cas de Robert l'année dernière, lorsqu'il a animé « Avro Chai » à Dennis Point, un moment de célébration et d'introspection pour l'artiste. J'ai été obligée de réfléchir à des questions que j'avais pas réfléchies vraiment, comme c'est quoi la fierté d'être acadien. C'est précieux d'avoir un « aha moment » et de découvrir sa fierté. Mais au quotidien, est-ce qu'il y a aussi des petits « aha moments » où l'on exprime et affirme son identité acadienne? Je vis, je chante, je respire ma culture, lance Sylvie, qu'il ne lui faut pas grand-chose pour la vivre. Valérie, de son côté, vit surtout son identité acadienne dans la langue et l'accent acadien, notamment avec ses enfants. Elle me raconte à quel point elle adore les entendre sortir des mots et des expressions typiques de Chétiquan. Mais souvent, ce n'est pas quelque chose d'identifiable. C'est simplement une partie de qui nous sommes. « Je n'ai pas le choix d'être acadien », précise Gilles Saunier, qui fait remarquer que, oui, son identité se vit par ses valeurs personnelles et certains choix de vie, mais au bout du compte, son ancienneté ne se dissocie pas de son identité. Alors peut-on faire des choix pour changer la manière dont la communauté évolue? Est-ce qu'on peut réellement se questionner sur le futur de l'Acadie? Avant de trop y réfléchir, on pourrait commencer par une prise de conscience. Selon Valérie, il faudrait commencer par accepter le fait que chaque langue autour du monde évolue et que le mélange linguistique ne date pas d'hier. Le métissage de langues, ça existe depuis « forever », renchérit Robert. Comme il dit, même le français possède des racines hétérogènes influencées par le grec et le latin. Alors pourquoi est-ce que l'anglais suscite autant d'émoi? Car elle marque la fin d'un chapitre dans plusieurs cas. Valérie ne pense pas que la langue de ses grands-parents sera la langue des prochaines générations, ce qui est peut-être difficile à accepter, avoue-t-elle. Or, elle est d'avis qu'il faut apprendre à garder sa fierté acadienne tout en réévaluant ce que cette fierté symbolise aujourd'hui. Toutefois, l'infiltration de l'anglais mène également à une zone grise et de nouveaux défis. Pour moi, c'est quasiment une perte d'identité parce que si on parle plus français, c'est quoi qui nous sépare des autres Canadiens? Les enjeux dépassent la langue dans plusieurs cas. Il y a aussi la question de l'isolement culturel. D'après Gabriel, il faut évaluer la situation de manière réaliste. Elle croit qu'il faut d'abord plus de collaboration et de réseautage entre les communautés pour s'assurer d'aller dans la bonne direction. Je trouve qu'on se cible trop dans nos silos. Et là, ça fait que les gens travaillent juste plus fort. Collaboration, unité, décentralisation des ressources. Des Acadiennes comme Gabrielle nous montrent qu'il y a des choix à faire et des Acadiens comme Gilles nous rappellent qu'il ne faut pas perdre espoir. Il mentionne le besoin de continuer à mettre l'accent sur les capacités de la communauté à vivre en français pour éviter de faire une transition plus marquée vers la langue anglaise. Sinon, les prochaines générations pourraient perdre une partie de leur lien avec leur passé ou y avoir accès plus difficilement. C'est plus une adaptation qu'une mort. Où s'en va l'Acadie? Vers l'affirmation de soi, mais aussi l'adaptation, comme toutes les autres générations d'antan. Alors je pose la question, dans quelle direction voulez-vous voir l'Acadie aller? C'était « Peut-on savoir où s'en va l'Acadie? » un éditorial de Jean-Philippe Giroux, paru le 11 août 2023 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Attention, pente glissante. Un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 19 août 2023 dans La Presse. En moins de 10 ans, le Québec est devenu le champion mondial de l'aide médicale à mourir, AMM. C'est grave, docteur? Ce n'est pas un mal en soi. Mais on doit rester vigilant, à en juger par l'avertissement lancé au début d'août par la Commission sur les soins de fin de vie qui observe davantage de cas aux frontières de la loi. Des frontières de plus en plus floues. Et des frontières qui seront encore repoussées puisque Québec va permettre, dans moins de 2 ans, les demandes anticipées pour les patients atteints d'une maladie neurocognitive comme l'Alzheimer. Nous ne sommes pas contre. Mais encore faut-il réaliser collectivement où nous sommes rendus sans escamoter les questions fort délicates que soulève ce changement majeur, adopté sans grand retentissement à la fin de la session parlementaire de juin. Mais Avant de parler d'Alzheimer, reprenons les choses du début. Le Québec est donc le champion mondial de l'AMM, qui représente environ 7% des décès dans la province, au moins deux fois plus qu'ailleurs au Canada, et même 10 fois plus qu'en Oregon, où la pratique existe pourtant depuis 25 ans. Oui, mais là-bas, on parle de suicide assisté. Le patient sort du bureau du médecin avec une prescription orale qu'il prendra tout seul. Au Québec, l'AMM a été conçu comme un soin administré par l'équipe médicale qui a pris soin du patient. Cette approche plus digne et humaine contribue à l'émergence de l'AMM qui va continuer de se développer. C'est écrit dans le ciel, avec le déclin de la religion dans notre société où la quête de la qualité de vie est érigée en valeur centrale. On mourra sans Dieu, mais sans souffrance. Déjà, l'aide médicale à mourir a évolué très rapidement depuis son adoption en 2014. Ce qui était d'abord conçu comme un soin de dernier recours pour écourter l'agonie, s'est considérablement élargi depuis que l'obligation d'être en fin de vie a été retirée en 2020, sans qu'on mesure pleinement la portée du changement. Le débat s'est fait chez les élus de façon sereine et transpartisane, ce qui est tout à leur honneur. Mais il n'a pas percolé dans la population qui perçoit l'aide médicale à mourir comme un droit absolu. Par exemple, la pression est souvent forte de la part des personnes très âgées qui disent que le bon Dieu les a oubliés alors que l'âge avancé n'est pas un critère suffisant. Au départ, on voyait essentiellement des patients en phase terminale de cancer. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de nouvelles pathologies qui peuvent mener à des interprétations différentes de la loi qui comportent de larges zones grises. Pour bien jouer leur rôle de garde-fou, les médecins doivent obtenir l'opinion d'un deuxième médecin. Et ce n'est pas une simple formalité. Dans les autres provinces, le professionnel qui donnera ce second avis est déterminé par un corps indépendant, ce qui n'est pas le cas au Québec. Il s'agit d'une faiblesse de notre loi. Bientôt, l'Alzheimer ajoutera une dose de complexité. Les sondages démontrent qu'une écrasante majorité de Québécois sont d'accord avec l'idée de permettre à une personne inapte de recevoir l'AMM selon les termes qu'elle a fixés alors qu'elle avait encore toute sa tête. C'est une avancée souhaitable. On ne veut surtout pas que les personnes qui reçoivent un diagnostic de démence se suicident alors qu'elles ont encore toute leur tête, sachant qu'elles n'auront plus la lucidité pour faire une demande d'AMM lorsque la maladie sera plus avancée. Toutefois, il est extrêmement difficile pour une personne encore bien portante de déterminer le moment exact où elle voudra qu'on lui administre l'injection finale. Entre les premiers stades d'Alzheimer, où l'on ne reconnaît plus toujours ses proches, et les stades avancés, où l'on devient un grabataire recroquevillé sur son lit, il y a toute une évolution, remplie d'agressivité et d'errance pour certains, tandis que d'autres sont relativement sereins. Mais comment tracer la ligne, alors que le regard que l'on porte sur l'Alzheimer est forcément externe, puisqu'on n'est jamais dans la tête de ceux qui en sont atteints? Voilà le défi immense qui attend les patients, leurs proches et le médecin qui appuiera sur la seringue. Même s'il n'est pas celui qui soignait le patient lorsqu'il a formulé sa demande. La loi prévoit que le patient doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables avant de procéder. Mais il reste encore du travail à faire pour clarifier les processus, notamment en rédigeant le guide et le formulaire de demande. Il faudra aussi s'assurer que le personnel soignant aura la formation requise pour éviter les dérapages. Il ne faut pas que la pression sociale ou familiale pousse des gens à faire une demande anticipée parce qu'on leur fait sentir qu'ils seront un fardeau. Déjà, les aînés sont vulnérables à la maltraitance financière de la part de leurs proches, de leurs vivants. Il serait terrible qu'ils soient poussés dans leur tombe parce que leur entourage veut éviter des frais. Le Québec est la première juridiction au Canada à avancer sur la route des demandes anticipées. Comme nous n'avons pas de modèle, retournons toutes les pierres pour ne pas nous retrouver sur une pente glissante. C'était « Attention, pente glissante », un texte de Stéphanie Grandmont, paru le 19 août 2023 dans La Presse.
Abonnez-vous donc à nos journaux. Un éditorial de Mélanie Tremblay, paru le 8 août 2023 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick. Meta passe à l'action et met fin à l'accès aux nouvelles au Canada sur Facebook et Instagram. L'occasion est venue de réfléchir à notre consommation de l'information. Les réseaux sociaux nous ont offert un confort dans l'accès aux nouvelles au cours des 20 dernières années. Une aisance si grande que nous sommes devenus, bien malgré nous, quelque peu paresseux. Abonnez-vous à notre infolettre. Voilà le message que placardent les médias canadiens partout sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Leur objectif est de continuer à vous rejoindre quand les géants du web auront retiré votre accès aux nouvelles canadiennes. Meta a d'ailleurs parti le bal le 1er août en commençant à retirer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram. Un acte contre l'adoption de la loi concernant les plateformes de communication en ligne, rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada, qui oblige les géants du web à payer les médias canadiens pour les contenus qu'ils partagent. Google a aussi brandi la menace et a annoncé le retrait des nouvelles provenant de médias canadiens lorsque la loi entrera en vigueur, soit en décembre 2023. Le désaccord entre les géants du web et le gouvernement canadien nous force, en tant que citoyens, à réfléchir à la transformation lente mais constante de nos habitudes de consommation de l'information au cours des dernières décennies. En une génération seulement, nous sommes devenus des consommateurs d'informations passifs. L'humain est une créature d'habitude. Nos habitudes de consommation de l'information ont changé de façon radicale. Quand j'étais plus jeune, le journal se lisait encore strictement sur papier et le téléjournal n'était qu'à la télévision. Puis est venue la révolution numérique qui a bouleversé nos habitudes. Racontons l'histoire en accéléré. Fin des années 1990, Internet arrive dans nos foyers. Rapidement, les premiers sites web des médias apparaissent. En 2004, nous devenons amis sur Facebook. Et en 2010, tout le monde s'informe en ligne et sur les réseaux sociaux. C'est moderne, c'est révolutionnaire, c'est facile. Entre les photos du petit dernier de la voisine et le gâteau au chocolat du beau-frère, nous avons le sentiment d'avoir accès à des nouvelles. L'information venait à nous sans effort. Nous nous sentions mieux informés. Mais tout cela a eu un effet pervers et nous sommes devenus un peu plus paresseux. Aujourd'hui, la plupart des journaux sont disponibles en ligne. Tristement, ils sont même de plus en plus nombreux à ne plus imprimer. Et pour ce qui est du téléjournal, nous pouvons le regarder au moment qui nous convient le mieux. Champ libre aux fausses nouvelles. Selon le plus récent Digital News Report, 48% des francophones de 35 ans et plus et 39% des 18-34 ans ont utilisé Facebook au Canada pour s'informer dans la semaine précédant l'enquête. YouTube et Instagram figurent aussi parmi les sources importantes d'informations chez les 18-34 ans. Au fil des années, les médias ont investi temps et argent pour que leurs nouvelles soient mieux classées dans les recherches sur le web et pour être plus visibles sur les réseaux sociaux. Le retrait des nouvelles canadiennes sur Meta et Google ne se fera pas sans heurts. Les temps seront difficiles, pour les médias, certes, mais surtout pour les citoyens. Que verrons-nous à la place des nouvelles des médias canadiens sur Meta et sur Google? Des nouvelles américaines? Des commentaires provenant de soi-disant journalistes? Des fausses nouvelles? Du moins, plus que d'habitude? C'est inquiétant. Les intentions du gouvernement étaient bonnes derrière l'adoption de la loi sur les nouvelles en ligne. Vouloir redonner des revenus publicitaires aux médias canadiens est une ambition louable. Mais la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est loin de rendre service à la presse et aux citoyens. À moins que le fédéral ne réussisse à élaborer des règlements qui conviendront aux géants du web, ce qui semble peu probable, la disparition des nouvelles canadiennes sur Meta et Google aura des répercussions importantes sur la société canadienne. Du moins, le temps que nous reprenions de saines habitudes d'information. Nous avons tenu pour acquis, voire surestimé, le rôle du web dans notre consommation de l'information. Maintenant que le risque de perdre ses sources est réel, il est temps que tout le monde prenne ses responsabilités. Le gouvernement doit faire sa part. Idéalement, trouver un terrain d'entente avec les géants du web. Mais surtout, il devra donner davantage de moyens aux médias pour leur permettre d'améliorer la diffusion et la découvrabilité de leurs informations. Les médias, même si les temps risquent d'être difficiles, devront persévérer et faire ce qu'ils savent faire de mieux, informer. Et nous avons le devoir de ne plus être paresseux. Notre société mérite d'avoir des citoyens informés pour protéger sa démocratie. De toute manière, Facebook n'a jamais été une bonne façon de s'informer. Abonnez-vous donc à vos journaux. C'était « Abonnez-vous donc à nos journaux », un éditorial de Mélanie Tremblay paru le 8 août 2023 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick.
Voici ou ne pas laisser de pourboire quand vous partez en vacances. Un texte de Lucie Ferré, paru le 20 juillet 2023 dans le journal Métro. Vous est-il déjà arrivé de laisser un pourboire dans un autre pays et de vous faire regarder de travers? Dans certains pays du monde, laisser un pourboire peut être mal vu ou tout simplement inutile. Métro a analysé dans quel pays il ne faut pas laisser de pourboire à l'aide des données de la carte interactive HelloSafe pour vous éviter certaines interactions gênantes en pleine vacances. Le pourboire inclus dans le service. Plusieurs pays incluent déjà le pourboire dans le service des employés. C'est le cas dans plusieurs pays d'Amérique du Sud comme au Brésil, en Colombie, au Chili, en Équateur ou encore au El Salvador. En Europe, beaucoup de pays l'incluent aussi dans leurs services comme en Belgique ou encore en Finlande. Des pays d'Asie comme la Thaïlande ou le Népal le font également. Certains restaurants peuvent ne pas l'inclure dans la note, comme c'est parfois le cas au Brésil. Pour vous éviter de payer un pourboire deux fois, vérifiez bien que le service est inclus sur le reçu de votre commande. Dans ces pays, les pourboires ne sont pas pour autant mal vus. Si vous souhaitez donner un pourboire en plus du prix que vous avez à payer, celui-ci sera le bienvenu. Une perception différente du pourboire. Contrairement aux pays cités plus haut, certains pays du monde n'acceptent aucun pourboire, voire perçoivent d'un mauvais œil la pratique. Cela peut s'expliquer par des raisons culturelles ou par des systèmes de rémunération spécifiques. En Australie et en Nouvelle-Zélande, laisser un pourboire n'est pas une pratique courante. Aucun employé ne s'attend à recevoir un pourboire de la part d'un client, même si ce n'est pas pour autant critiqué. Ce n'est pas le cas pour plusieurs pays d'Asie qui peuvent être offensés par la pratique. En Chine, la modestie est valorisée comme une qualité. Donner un pourboire est vu comme vouloir montrer sa richesse ou sa générosité, ce qui peut être pris comme un geste grossier. Au Japon, un pourboire pourrait quant à lui être perçu comme une insinuation à un mauvais service reçu. Le service à la clientèle est quelque chose d'important au Japon. Il doit donc être à la hauteur du prix payé. Enfin, en Corée du Sud, la société est influencée par les principes d'harmonie sociale, de modestie et d'égalité. Donner un pourboire peut être perçu comme afficher sa richesse ou vouloir créer une sorte de hiérarchie entre clients et employés. Abstenez-vous donc de laisser des pourboires dans ces pays-là, même si vous en mourrez d'envie. D'autres pays sans pourboire obligatoire. Beaucoup de pays en Europe fonctionnent sans pourboire obligatoire puisque le service est déjà inclus dans la note. Cependant, il pourrait vous être utile d'adopter certaines pratiques propres à la culture du pays. En voici quelques-unes. En Pologne, si vous décidez de laisser un pourboire à un serveur polonais, il est préférable de lui donner directement que de lui laisser sur la table. En Espagne, il est courant d'arrondir le montant de la note au chiffre rond supérieur en guise de pourboire. En Croatie, dans les restaurants et les bars, il est courant de laisser un pourboire en espèces, sur la table ou en personne. Le saviez-vous? Le taux de pourboire le plus élevé se trouve aux États-Unis avec un pourboire d'environ 20% à laisser sur la note finale pour le serveur, puisque les pourboires y sont souvent leur principale source de revenus. Viennent ensuite le Canada avec une moyenne de 15 à 20%, le Mexique avec une moyenne de 15% et le Qatar avec une moyenne de 10 à 15%. C'était « Voici ou ne pas laisser de pourboire quand vous partez en vacances », un texte de Lucie Ferry, paru le 20 juillet 2023 dans le journal Métro.